Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Même le président de la République est au courant désormais, puisqu'il l'a vécu en direct. Les femmes victimes de violences ont du mal à se faire entendre. Ainsi, le 3 septembre, pour ouvrir ce que le gouvernement appelle un Grenelle des violences conjugales et qui se poursuivra jusqu'au 25 novembre, Emmanuel Macron s'est rendu dans les locaux de la plateforme d'accueil téléphonique 3919 et, chaussé d'un double casque, il a assisté au refus catégorique d'un gendarme d'accompagner une femme en danger, récupérer ses affaires chez son ancien conjoint contre lequel elle avait par ailleurs porté plainte. Ayant promis de ne pas intervenir, le chef de l'État qu'il est a dû bouillir, mais n'a rien dit. À la suite de quoi, une enquête a tout de même été ouverte. Mais combien ne le sont pas? Et combien de femmes devront subir une double peine, la violence et le refus d'être entendues? Pour répondre à cela, on dispose de quelques chiffres fournis par l'Observatoire des violences faites aux femmes. On sait par exemple qu'en 2016, 93 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol sur une année. Et que parmi elles, seule une sur 10 déclare avoir porté plainte. Quand les violences ont été commises par un partenaire connu, seul un quart des accusés, donc des hommes, font l'objet de condamnations graves. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, l'histoire d'une jeune femme qui non seulement n'a pas été entendue, mais qui cette nuit-là a même fini en garde à vue. Tinder, surprise, nuit de cauchemar au commissariat, c'est une histoire racontée par Leila Djikli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans. Je travaille dans une agence de gestion locative à Paris. Alors j'étais inscrite sur Tinder depuis un moment et je parlais avec un jeune homme depuis quelques jours. On s'était échangé nos numéros. C'était lundi, fin du mois de juin, en pleine canicule, tout ça. Et puis ce soir-là, j'ai eu l'opportunité de finir un petit peu plus tôt que d'habitude à 20h et je me dis autant en profiter, il fait super beau, autant aller boire un verre en terrasse avec ce jeune homme. Bon, on s'entendait bien, on rigolait bien, on avait l'air d'avoir un petit peu les mêmes centres d'intérêt, donc pourquoi pas après tout. Je termine à 20h, on se donne rendez-vous en terrasse. Bon, je m'aperçois qu'il a un peu menti sur quelques caractéristiques et sur ses photos, mais c'était des anciennes photos. Et entre-temps, il y a eu peut-être pas mal de pots de Nutella ou de trucs comme ça qui étaient passés, quoi. Bon, petit décalage de quelques kilos, on va dire. Mais bon, ça n'empêche pas d'être sympa. Hein. Même s'il n'était pas complètement fidèle à son profil, en tout cas, je passe un bon moment. On boit deux verres de rosé, c'est l'été, tout ça. Donc tout se passe super bien, ça part plutôt pas mal, quoi. Et quand il me propose d'aller dîner chez lui et tout, je me dis, ouais, pourquoi pas. Et en mettant bien la barrière, en disant, on est d'accord, qu'il n'y a pas d'obligation et tout, que c'est pas parce que je viens dîner chez toi que forcément on va sauter dessus au bout de 45 secondes. Mmh. Et il me dit, ouais, pas de problème, mais t'inquiète, au pire, tu dors sur mon canapé et tout. Jusque-là, tout va bien. On va acheter une bouteille de rosé et en avant, on chevauche le scooter et c'est parti en direction de Châtillon, à son domicile donc. On arrive, on discute, on ouvre la bouteille de rosé, c'est chouette, il fait chaud, on met de la musique et tout, on discute. On commande japonais, on dîne, et jusque-là tout se passait bien. Et il commence à vouloir mettre sa main sur ma cuisse, me caresser le dos, vouloir que je lui fasse des bisous, mettre sa tête sur mes genoux. Je pense qu'il était dans une misère sexuelle et affective effrayante, quoi. Et je pense aussi que c'était quelqu'un qu'il ne fallait pas laisser boire plus de deux verres, en fait. Ensuite, il va me faire un bisou, lui. Donc, il me fait le bisou au coin de la bouche. Alors, non seulement il me fait ce bisou au coin de la bouche, là, mais en plus, il me lèche un peu la joue. C'était un petit peu répugnant. Donc là, je dis, cette fois, c'est trop. Je me lève et je m'en vais. Sauf que le fait que juste je m'en aille, ben, c'était pas suffisant, il fallait que lui me mette dehors. Donc il commence à me pousser vers la sortie. Et là, je me dis, alerte rouge, je n'ai pas mes affaires. Donc ben, s'il me jette dehors, je me dis, peut-être que je ne récupérerai jamais mon sac à main, mon ordinateur, tout ça. Donc avant qu'il referme la porte, je m'interpose en fait dans l'entrebâillement de la porte pour pouvoir récupérer mes affaires. Donc il me claque la porte sur le corps une première fois. Il me donne mon sac à main. Et là, je me dis, ben, il me manque encore mon ordinateur, je ne peux pas partir comme ça. Donc je m'interpose alors qu'il allait encore fermer la porte. Là, il me claque la porte dessus deux fois. Et finalement, donc, il me donne mon ordinateur, il m'attrape par la gorge, il me bascule en arrière sur la balustrade. Et puis en fait, il me lance contre la porte sur le palier en face, comme si j'étais comme dans un film de Schwarzenegger en fait, comme Robocop qui lance des mecs comme ça. Je comprenais pas pourquoi en 30 secondes, il y avait eu autant de violence. Puis je descends, je suis un peu en panique, j'appelle la police, je me rends compte que je n'arrive pas à sortir de la résidence, je trouve pas le bouton pour ouvrir les grilles. Je panique un peu, je crois que je pleure un peu au téléphone et tout. Parce que je trouve pas du tout la sortie, je vois pas, je me dis, mais ça se trouve, je vais rester toute la nuit dans cette résidence. Alors que lui était à sa fenêtre et qu'il continue à me parler, à m'insulter. Et finalement, il y a quelqu'un qui entre, donc la grille s'ouvre et je sors. Et là, je tombe sur la police, donc, qui viennent à ma rescousse. Je me dis, ok, ils sont là, ça va aller, je vais aller au commissariat déposer ma plainte. Ok, maintenant tout va bien, quoi. Ils sont allés au domicile de ce jeune homme. Il y en a deux qui sont montés et deux autres qui sont restés avec moi. Donc ils m'ont demandé des questions basiques d'identité, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance. Et donc ils m'ont demandé si j'avais bu. Donc je leur ai dit que j'avais bu 4 verres de rosé. Et finalement on me demande si je veux déposer plainte. Donc je dis que oui. Et je pars dans la petite camionnette au commissariat de Montrouge pour déposer ma plainte. Jusque-là, ça va. Donc c'est un voyage presque sympa. Il y a Chérie FM, ça chantonne et tout. Bon, ok. Donc on arrive au commissariat. Je dirais pas que c'est bonne ambiance, mais pas loin quoi. Il doit être 23h45, un truc comme ça. C'est un peu avant minuit. Donc j'arrive dans la salle d'attente. J'ai toujours un peu mal à la gorge et tout. Bon. Il y a des gens avant moi, je patiente, très bien. Et finalement, quand il reste plus que moi dans la salle d'attente, j'entends les deux policiers à côté, ils sont juste à côté de moi, donc non seulement je les entends, mais en plus je les vois, dire « Ouais, faut encore que je m'occupe de l'autre, là ». Là, c'est un tout petit peu moins bonne ambiance, je me dis « Non, non, c'est du service public, on parle pas comme ça des gens ». Donc je leur fais remarquer, et parce que je suis déjà vraiment énervée, je viens d'être victime d'une agression qui est quand même un peu violente. Et là, ils viennent me voir pour me dire « Mais vous voulez déposer plainte, vous êtes sûre ?»« Oui, je suis sûre, oui, sinon je ne serais pas là. »« Oui, mais vous savez, il pourrait prendre jusqu'à 15 ans, ça pourrait ruiner sa vie. » Donc là, moi je suis complètement abasourdie parce que je viens d'entendre. Donc je confirme que oui, je veux bien déposer une plainte contre cet homme. « Ben, ok, ben, venez, on va vous faire souffler. » Donc je souffle, j'ai un taux d'alcoolémie de 0,46, je crois, ce qui n'est pas fou, ce qui correspond à 4 verres. Comme j'ai bu 4 verres de vin, c'est cohérent. Et là, on me dit, bah non, on ne peut pas prendre d'autres plaintes. Donc j'appelle mon avocat pour lui dire, écoute, ils ne veulent pas prendre ma plainte, et non seulement ils ne veulent pas prendre ma plainte, mais en plus de ça, ils viennent de me dire, ouais, il pourrait prendre 15 ans et ça peut ruiner sa vie. Je suis un peu choquée par ce que je viens d'entendre. Et il me dit, effectivement, c'est pas normal, je vais les appeler, et t'inquiète pas, ils vont prendre ta plainte. Ok. Donc j'attends. Hein. Et ils vont revenir me voir pour me dire toujours, bah non, on peut pas prendre d'autres plaintes, madame. Donc je vais rappeler mon avocat encore, qui va me dire, bah si, tu vas voir, moi je vais les appeler, et ils vont finir par prendre ta plainte. Et il me dit, déjà, je les ai eu au téléphone, ils m'ont dit que t'étais totalement ivre et hystérique et tout, alors que j'étais juste ben, assise sur une chaise à écrire des messages à des copines pour raconter un petit peu. J'étais pas diminuée ni par l'alcool, ni par rien du tout, quoi. J'étais parfaitement bien consciente de ce qui se passait. Et je voyais surtout qu'on refusait de prendre ma plainte pour une raison qui m'échappait complètement. Et ça m'énervait un petit peu. Parce que déjà, je me sentais pas respectée. Ma parole, ma potentielle souffrance, rien n'était pris en compte. Et finalement, à un moment, on va me dire, ben, écoutez, soit vous attendez une heure ou deux, soit vous rentrez chez vous. Je dis bon, bah, si c'est une heure ou deux, je vais attendre un petit peu. Donc j'attends, je suis toujours en salle d'attente, bah, j'attends. Hein. Je pense qu'il est 3h du matin, à peu près. Donc ça fait quand même à peu près 3 heures que je suis au commissariat, que personne n'a voulu prendre ma plainte. On m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. Et finalement, je commence à vouloir quitter le commissariat. Et j'arrive à la porte, et là, j'entends derrière moi qu'on dit « Retenez-la, retenez-la, la laissez pas sortir !» Et là, je me dis « Oulala, panique à bord, ça sent pas bon. » Je sors mon téléphone pour rappeler encore une fois mon avocat, le pauvre. Là, cette policière m'arrache le téléphone des mains. Je lui dis que je suis en train de contacter mon avocat. Non, non, vous n'appelez personne. À partir de là, ça bascule complètement. On m'a arraché mon téléphone des mains. On m'arrache mes sacs. Il y a un policier qui me tire à deux mains par le bras en haut des marches. Derrière, il y en a deux qui me poussent. J'essaye un peu de me débattre, mais en fait, je pèse 58 kilos. Ils sont trois sur moi. Je crois que ça sert vraiment à rien. Et donc là, on va me traîner jusqu'à côté de l'accueil où on prend les plaintes ou je sais pas trop quoi. Et on va me menotter à un banc. Donc, j'ai subi une agression il y a 3 heures. Et là, je termine menottée à un banc, avec le haut de ma robe à moitié enlevé. Même ma culotte a été déchirée quand même. Donc, je vais rester menottée à ce banc pendant, je sais pas, 45 minutes, une heure. Je sais pas trop ce qui se passe. Je me dis, bon, bah, peut-être que je vais me réveiller, j'en sais rien. Il n'y avait aucune raison de ne pas me laisser partir, en fait. J'avais pas commis de crime, rien du tout. Tout est parti de travers, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sûrement quand je lui ai fait remarquer qu'il faut que je m'occupe de l'autre, alors que je suis juste à côté, c'est pas cool. Je pense que c'est parti de là. Je sais pas.
France Culture, les pieds sur terre.
Finalement, au bout de trois quarts d'heure, une heure, on va me dire, ben, ok, on vous emmène à l'hôpital. Ok. Donc ensuite, on me relève pour m'emmener à l'hôpital et tout. Ils sont 4 policiers à m'escorter et cette policière va dire, pince-la, ça va la calmer. Donc on me remet les menottes. Tout est normal. Je viens de me faire agresser. On m'emmène à l'hôpital pour constater mes blessures, menotter et escorter comme si j'étais un dangereux criminel. Plus rien ne m'étonne. Sauf qu'on me met mal une des deux menottes. C'est censé être un petit peu ergonomique et, entre guillemets, épouser parfaitement la forme du poignet, sauf qu'il me le met pas correctement, en fait. Et ça me scie le poignet, donc je tourne mon bras pour essayer de la remettre correctement. Je dis à plusieurs reprises d'arrêter de me démettre l'épaule, parce qu'il tire comme un malade sur mon bras et que ça me fait extrêmement mal à l'épaule. En plus de me défoncer le poignet, enfin, ce à quoi on va me répondre, ouais, mais vous êtes en train de gesticoter. Donc je lui dis, bah, écoutez, ça n'existe pas. Je ne peux pas gesticoter, du coup. Il réfléchit, il me dit « Ah oui, c'est vrai. Non, c'était gesticuler que je voulais dire. Oui, bah oui, sûrement. Oui. » Et donc là, toujours pareil, on va arriver à la porte du commissariat et on me dit « Bah en fait, on va t'emmener en cellule. » À ce moment-là, je me dis « Ok, je suis dans un truc de Kafka. Plus rien n'a de sens. » Là, franchement, à ce moment-là, j'aurais vu des licornes passer au milieu du commissariat. Ça n'aurait rien eu d'étonnant. Je ne pourrais pas sortir de ce commissariat. Et là, direction la cellule, donc au sous-sol. Ils sont toujours 4 hein, pour m'escorter en cellule, quand même. Hein, je pense qu'il fallait au moins ça. Puis là, en fait, j'arrête de réfléchir. Je deviens vraiment un robot. Je fais ce qu'on me dit. Rentre dans cette pièce, ok. Enlève ta robe, bah d'accord. Je donne mon soutien-gorge à cette dame. On m'emmène dans ma cellule. On me demande d'enlever mes lacets. J'enlève mes lacets. Voilà, je sais pas, je plaisante même avec les policiers parce que je me dis, bon, tant qu'à faire, je sais même pas pour combien de temps je suis là, peut-être que je serai encore là dans 4 ans, j'en sais rien. Et puis là, on ferme la porte et je me retrouve dans cette cellule et je me dis, ok, mais qu'est-ce que je fous là? Avec des tags, des trucs gravés, Tony 92, un pseudo, je sais pas, c'est un peu bizarre, le mec s'appelait Déjà, donc il y avait Déjà qui était gravé un peu partout. Bon, et je me suis demandé quelle blase j'aurais pu graver, moi, sur les murs et tout, et sur le sol. J'ai pas trouvé. Et je me disais, tiens, peut-être qu'il va falloir que je me mette à la gonflette et tout, comme dans Prison Break. C'est vraiment ce que j'ai pensé. J'y suis restée un moment dans cette cellule, du coup, j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir à tout ça. Donc bon, moi je me dis je vais faire des abdos, je sais pas. J'étais couchée sur ma banquette pourrie là, avec mes jambes contre le mur, et je relevais comme ça pour. C'est vachement bien ça pour faire des abdos. Et donc je sonne plusieurs fois parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Personne va venir m'ouvrir. Ma cellule est face à la salle de pause. Donc je vois qu'ils sont en train de regarder BFM et tout, et je me dis ok, en fait personne viendra quoi. Et puis moi à un moment, ben je peux plus me retenir, ça faisait un moment déjà, j'étais dans ce commissariat depuis au moins 4 heures, donc ben ouais, je prends la décision de faire pipi dans un coin de ma cellule, et je vais rester dans cette cellule à peu près 2 heures. Et vers 5h30, on va me remonter. Donc on va m'autoriser à aller aux toilettes. Ben, c'est gentil, mais c'est trop tard. On va me remettre sur le même banc, toujours, où j'étais menottée un peu plus tôt. Et là, on va me notifier ma garde à vue. On va me dire, vous êtes en garde à vue pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Là, j'ai ri. Enfin, je les laisse parler. Et puis donc on va me demander si je veux appeler un avocat, donc je dis que oui. Si je veux informer mon travail, je dis que oui, et on va me le refuser. Alors que je vais dire à plusieurs reprises que je suis la seule personne en Île-de-France à avoir la clé du bureau. Mais en fait ils s'en fichent. Là je vais avoir le droit de voir un médecin, enfin. Ça fait quand même plus de 5 heures que je suis dans ce commissariat. Mais en fait c'est un médecin qui va juste voir si je suis apte à la garde à vue ou pas. Donc il va pas regarder mes blessures, rien du tout. Il va juste mettre le stéthoscope sur la poitrine et dans le dos, me demander de respirer fort et prendre ma tension, et c'est tout. En 2 minutes, c'est terminé. Et c'est reparti pour la cellule. Donc je repars dans ma cellule, ben, bon an, mal an, quoi. Je me dis, allez, je sais pas encore pour combien de temps j'en aurai. J'écoute les oiseaux dehors, je crève de chaud, c'était en pleine canicule. J'ai quand même réussi à avoir une couverture pour pas que tout le monde voie mes fesses depuis le couloir. J'écoute le type d'à côté qui ronfle. Donc j'ai sonné plusieurs fois parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes encore. Personne ne m'a ouvert. Donc j'ai dû refaire encore mes besoins dans un coin de ma cellule. À mon avis, ils ont juste décidé de me laisser croupir dans ma cellule au milieu de ma flaque d'urine. Vers 8h, 8h30 du matin, je demande à avoir de l'eau et du sucre parce que je n'ai rien mangé ni rien bu depuis la veille à 22h. On est en pleine canicule, je suis en train de commencer à faire un malaise et j'ai très très soif, il fait très chaud. Il a quand même fallu que je sonne à peu près 10 fois en 10 minutes pour qu'on descende. Donc il y a un policier qui va venir, donc ce policier il va me dire oui, je vous rapporte ça. Il referme ma cellule et il tourne le dos. Donc il est toujours juste devant la porte de ma cellule et je l'entends. Et il dit à son collègue « Ouais, t'inquiète, c'est une comédienne, je les connais celle-là. » Soit. 20 minutes après, il me ramène une petite briquette de jus d'orange dégueu avec deux petits biscuits. Bon, ben déjà ça suffit à faire passer mon hypoglycémie, c'est pas mal. Je lui demande de l'eau, il me dit « Oui, ok, 8h30, je demande de l'eau. » Et il se passe vraiment des heures. Je demande à plusieurs reprises de l'eau. À un moment, je tape à la porte de ma cellule parce que je vois qu'il y a un policier dans le couloir. Je lui demande de l'eau et il me répond juste en me faisant un pouce en l'air. Bon, ok. Je vais sonner encore à plusieurs reprises parce que j'aurai encore besoin d'aller aux toilettes. Personne ne va venir, donc je serai encore une fois contrainte de faire mes besoins dans ma cellule pour une troisième fois. J'ai toujours pas bu. Et finalement, vers midi, on m'apporte un verre d'eau. Je me dis, ben chouette! Et comme par hasard, c'est le moment où on me sort de ma cellule pour aller voir mon avocat. Je pense qu'il m'apporte de l'eau parce qu'il commence peut-être à être pas très bien. Donc là, je me retrouve avec mon avocat, lui raconter tout ce qui s'est passé. Ben, il hallucine un petit peu. Et on va monter pour entendre un petit peu la plainte que les policiers ont déposée à mon encontre. Et là, c'est un moment absolument hallucinant. Je sais que j'étais en garde à vue pour violence volontaire, mais dans la plainte que les policiers ont déposée, il n'y a rien qui fasse mention de violence volontaire. À un moment, ils ont dit que je faisais mine de vouloir en découdre. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Sachant qu'au moment où je faisais, soi-disant, mine de vouloir en découdre, il y avait quand même trois policiers qui étaient sur moi. J'avais pas les bras libres, j'étais entravée dans mes mouvements, je pouvais rien faire, quoi. Donc je pouvais certainement pas faire mine de vouloir en découdre. Bon. Ils ont aussi spécifié quand même dans cette plainte pour violence volontaire, hein, que quand j'ai défait mes lacets, j'étais assise de manière nonchalante. je pense que ça a vraiment sa place dans une plainte pour violence volontaire, en fait. Mais même l'OPJ, en fait, qui me lisait ça, elle gloussait, quoi. Parce que, bah, elle se rendait bien compte que c'était ridicule. Là, mon avocat a quand même insisté pour qu'on me redonne de l'eau et qu'on me nourrisse. Parce que je lui ai dit que j'avais rien mangé depuis la veille. Donc j'ai eu un plat préparé, un peu dégueu, mais bon, au moins j'ai un peu mangé. Et il était 13h20 quand je suis sortie de ce bureau. Et on m'a dit, normalement, dans une heure, vous sortez. Donc je suis sortie à 16h30. Je suis restée en tout 18h dans ce commissariat, dont à peu près 14h en cellule, quoi, pour déposer une plainte. Et à 16h30, on me dit, bah, vous allez pouvoir déposer votre plainte. Oh bah, chic alors. Génial. Mais je sors même pas, en fait. Je ne sors plus de ce commissariat, j'habite là. Donc, je retourne à l'accueil, juste devant la porte, toujours cette même porte, et je retourne dans la salle d'attente. Donc là, je me retrouve à 16h30 à faire la queue pour déposer enfin ma plainte pour l'agression de la veille. Cette salle d'attente est vraiment devenue ma nouvelle maison, quoi. J'ai commencé à parler avec les Mars qui sont dans les machines. Mais je me demande si j'ai pas perdu la tête, en fait, à ce moment-là aussi. Hein. Je me dis, attends, t'étais là il y a 16 heures pour déposer une plainte et t'as passé la nuit et la journée en cellule, quoi. Et là, je me dis, ben, ça y est, c'est fini. Je dépose ma plainte et je m'en vais. Eh ben non. Quand je dépose ma plainte, l'officier insiste pour y mentionner mon taux d'alcoolémie de la veille, alors que le taux d'alcoolémie de mon agresseur n'a jamais été mesuré. Il me dit, bah oui, mais lui, il était chez lui. Pourquoi on aurait mesuré son taux d'alcoolémie alors qu'il était chez lui? Et là, encore une fois, je me dis, ah d'accord, bah super. À ce moment-là, moi, je me dis, vraiment, en fait, cette plainte, enfin, j'aurais mieux fait de jamais venir. Parce que finalement, cette plainte, tout ce qu'elle va dire, c'est, ben, ouais, mais t'étais bourré. Donc, ben c'est ta faute. Tu l'as bien cherché. Bien sûr que c'est normal qu'un mec m'agresse. J'ai bu 4 verres de rosé et je suis en robe. Évidemment que c'est normal. Je vois même pas pourquoi je viens déposer plainte. Et moi, je me retrouve là à devoir dire à un flic que dans ma plainte, je ne souhaite pas que soit mentionné mon taux d'alcoolémie parce que c'est juste du victim shaming. Et qu'on va dire, ben ouais, mais elle avait bu. Et elle l'a cherché. Et c'est de sa faute. Il faut pas se balader en jupe. Il faut pas se balader en robe. Il faut pas voir des hommes. Il faut pas faire ci. Il faut pas faire ça. Mmh. On est en 2019, quoi. Ça suffit. Et j'étais super énervée, en fait. Et non seulement j'étais super énervée, mais en plus, cet homme-là me dit, non, mais écoutez, je prends des plaintes depuis ce matin. Vous êtes la seule à être énervée. Bah, mais peut-être que je suis la seule à avoir passé la nuit en garde à vue aussi, quoi. Alors pour conclure, je suis convoquée à une audience le 29 mai 2020 pour répondre à ces accusations de... Donc du coup, c'est plus violence volontaire, ça a été requalifié en outrage et rébellion. Ma plainte contre ce jeune homme, ben, je suppose qu'elle suit son cours. Et donc les policiers qui vont déposer plainte contre moi vont être les mêmes que ceux qui vont enquêter sur mon agression. Donc je pense qu'on peut que augurer le meilleur. Et j'ai saisi l'IGPN et je vais déposer une plainte contre ces gens-là pour ce qui m'est arrivé malencontreusement ce soir-là. Et j'espère que ça va suivre son cours aussi.
Tone of your voice.
C'était Tinder Surprise, Nuit de cauchemar au commissariat, reportage de Leïla Djikli, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Émilie, à Maître Philippe-Henri Honegger. Sachez qu'Émilie, à la suite de cette émission, enfin même avant d'ailleurs, a certes porté plainte contre le commissariat et contre son agresseur, mais que ce dernier, l'agresseur, a également porté plainte contre elle pour préjudice psychologique. Affaire à suivre dans Les Pieds sur Terre et dans les tribunaux. C'est Mélissa Foust, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Lorenzo Cucchiaro, notre stagiaire.